I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme toujours pour discuter d'une année de ciné avec un invité, ou plutôt une invitée cette fois-ci, puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui est journaliste pour les émissions Story Movies et Story Classics sur OCS, écrit de temps à autre pour le magazine sur le cinéma de patrimoine revu et corrigé. Salut Esther Brejon.
Salut Thibaut.
Est-ce que ça va ?
Ça va très bien, merci.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te propose, sans plus attendre, de plonger dans l'année de cinéma pour laquelle tu es venu et pour laquelle on va discuter pendant à peu près une heure ensemble et qui nous intéresse donc aujourd'hui, l'année 1961. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. On écoutait ça en 1961, Stand By Me de Benny King, musique culte évidemment, mais pas que. En 1961, c'est aussi le 7 janvier, la diffusion du premier épisode de la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Le 12 avril, c'est le premier vol orbital d'un être humain dans l'espace avec Yuri Gagarin. Et le 12 août, c'est le début de la construction du mur de Berlin. Mais 1961, c'est aussi plein d'autres films et plein d'autres émotions de cinéma. Et notamment deux films américains importants qui vont être le cœur de notre premier thème. Encore une fois, je ne vais même pas vous dire le titre d'un des films dont on va parler, je vais simplement vous mettre un petit extrait sonore qu'on va vivre ensemble. New housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. La comédie West Side Story de Robert Wise. Une comédie évidemment culte qui raconte l'amourette, l'amour fou entre Tony, un membre du gang des Jets, qui tombe amoureux de Maria, qui est issue du gang des Sharks. Un amour impossible entre deux membres de gang opposés, si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est une réinterprétation, une adaptation de Roméo et Juliette, un peu dans de Shakespeare, revue et corrigée pour que ça passe dans les quartiers populaires new-yorkais. C'est un film qui remportera 10 Oscars. Donc c'est un film évidemment culte, dont tout le monde a au moins entendu les chansons comme celles qu'on vient d'écouter maintenant. Esther, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as vu, toi, West Side Story ?
Bah oui, je m'en rappelle très bien parce que c'était la semaine dernière, parce que je n'avais jamais vu West Side Story, j'arrive même pas à le dire. Ouais, c'est, je sais pas pourquoi, ça c'est une de mes lacunes, j'avais jamais vu J'ai été forcée de le voir pour l'émission et je suis ravie de l'avoir découvert et je comprends pas pourquoi je l'avais jamais vu avant parce que je trouvais ça génialissime.
Super, enfin, alors faut rappeler effectivement que le film donc sort en 61, dans un contexte américain assez morose, le cinéma est en crise parce que d'un côté la popularité croissante de la télévision toque à la fenêtre, c'est la guerre du Vietnam, donc c'est un peu la fin de l'illusion de l'American way of life, de ce fameux terme qu'on aime bien reprendre, et là le cinéma effectivement s'en ressent et le prend un coup parce que West Side Story ça parle de ça, ça parle effectivement d'une Amérique qui, doit gérer des problèmes, on va dire, des considérations qui sont loin, on va dire, du vernis qu'on nous vend, c'est-à-dire des considérations sociales, des considérations raciales, parce que West Side Story, derrière une comédie musicale enchanteresse, et donc ce qu'on va parler là, c'est aussi plein de choses extrêmement sérieuses
Mais je trouve que c'est ça ce qui est passionnant en fait dans ce film, c'est que derrière l'aspect de divertissement, voilà, la case du divertissement est cochée parce que effectivement on passe un très bon moment quand on regarde ce film et que les chorégraphies sont superbes. Il y a aussi vraiment la question du racisme et qui est posée, la question de l'intégration de ces nouvelles générations d'immigrés dans la société américaine.
Oui, parce que Maria est issue d'une communauté donc portoricaine.
Portoricaine, voilà. Véritablement. Et en gros, c'est la nouvelle génération d'immigrés, donc les Portoricains, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société américaine. Donc ça, c'est les Sharks, ouais. Face aux Jets, qui sont eux issus, en fait, c'est la seconde ou troisième génération d'immigrés. Eux, c'est des Américains, mais qui sont ont des parents ou des grands-parents irlandais, polonais. Donc ça, c'est l'immigration européenne qui est arrivée quelques décennies avant. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est ce film interroge vraiment la nation même que sont les États-Unis. Ouais. C'est parce que les États-Unis, c'est une nation d'immigrés. Et en fait, il y a des chansons où ils posent les problèmes de manière hyper directe, hyper frontale.
Bah, donc celle dont on a entendu, l'America, où d'un côté, il y a les femmes qui sont contentes d'avoir un lave-linge et du travail, etc., etc. Et de l'autre côté, les hommes qui disent « Oui, mais regarde la couleur de ta peau et regarde les critiques que tu vas avoir quand tu sors dans la rue. Regarde les avantages sociaux qui vont être refusés parce que délit de faciès. » Donc, c'est comme tu le dis, effectivement, c'est assez... t'as ce mélange de deux mondes dont tu disais.
Et ça, c'est la force de ce film. Et c'est là aussi où les Américains sont hyper bons. C'est qu'ils arrivent à faire un divertissement qui est un régal pour les yeux et les oreilles. Et en même temps, il y a un message... certains ont dit que le message était bancal. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un vrai message politique qui interroge la nation des États-Unis, qui interroge son modèle d'intégration. Ce modèle, il est toujours aussi
pertinent.
Pertinent, ouais, et est-ce qu'il marche toujours, est-ce qu'il fonctionne toujours, ou est-ce qu'il n'est pas en panne, en fait.
Bah, c'est marrant que tu dises ça, effectivement. Avant de plonger peut-être dans cette question, est-ce que ce film-là n'est-il pas un miroir d'un modèle américain en panne. Juste pour récapituler, le West Side Story, donc c'est l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway qui a fait un succès fou en 1957, dont la musique est de Leonard Bernstein, et qui est du coup adapté en film en 61. Et donc c'est un film qui arrive à la fin d'un certain âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes ou américaines, un âge d'or qu'on pourrait placer entre le début des années 30 et la fin des années 50, et du coup deux décennies comme ça de où la comédie musicale, on va dire, a connu de grandes heures, de grands moments, de grands films, et qui du coup, comme on l'a dit en introduction, commence un peu à, c'est un genre qui commence un peu à perdre de son aura, un peu à perdre de son appétence pour des raisons simplement économiques. C'est un genre qui coûte extrêmement cher à produire et qui effectivement rapporte plus beaucoup de sous parce que les gens sont intéressés par d'autres choses. Et comme on le disait, peut-être que, comme tu le disais Esther, peut-être que les gens, après la Seconde Guerre mondiale, ont eu directement d'autres considérations. Peut-être que la vraie vie, entre guillemets, la réalité s'est imposée à eux et que cet American Way of Life, cette illusion-là, est un peu disparu.
En même temps, donc, c'est hyper moderne parce que ça dénonce finalement la violence, par exemple la violence des policiers envers les étrangers. Mm-hmm. Quand on voit ce personnage de flic là qui supporte pas les Portoricains et qui va insulter gratuitement les Portoricains dans le bar. Ça, c'est hyper moderne parce qu'en fait, on pense à la violence des flics aux États-Unis contre les Afro-Américains et tous les faits divers très tragiques qui se sont passés ces dernières années. On ne comprend pas trop finalement d'où vient leur violence à eux, la violence de ces deux gangs. Ouais. Enfin, les Portoricains, on comprend parce qu'ils sont en train de se révolter contre une intégration, un modèle d'intégration qui est en panne. Mais finalement, il y a un personnage c'est le personnage qui tient le petit magasin, le drugstore, qui est toujours en train de dire mais pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes violent, pourquoi vous voulez toujours vous embrouiller, et finalement lui il comprend pas, et c'est vrai que le spectateur se demande aussi pourquoi ils sont toujours comme ça ces jeunes. Finalement il y a un petit flou sur le message, vraiment le message du film, je trouve.
Après est-ce que peut-être que tu l'as dit toi-même, c'est des jeunes. Et donc, tu as ce côté des Portoricains qui n'arrivent pas à se conformer à un modèle américain qui, effectivement, est bancal et en panne. Et d'un autre côté, tu vas avoir la génération d'immigrés plus anciennes, donc les Irlandais, etc., qui, peut-être se battent simplement comme pour leur place et pour leur... Ah, mais il y a d'autres personnes qui arrivent, qui viennent prendre leur, notre place. Cette espèce de considération xénophobe un peu primaire. Quand on regarde le film, donc on a... Ce qui frappe, c'est sa dualité. Moi, je sais que j'ai revu West Side Story pour l'émission. Et visuellement, le film est fou. Visuellement, c'est une claque. Alors, comment expliquer pour les gens qui ne l'ont pas vu? C'est une comédie musicale. Et du coup, c'est un film qui commence par 2 minutes, 3 minutes de musique avec un générique qui est très coloré, mais qui est relativement statique.
C'est toujours la même image, avec juste la couleur qui change. Voilà. Et ça, ça dure bien 5 minutes.
Voilà, une version stylisée de New York.
Et en fait, on s'aperçoit au bout de 5 minutes que c'est les gratte-ciels de Manhattan. Voilà.
La caméra parle de Manhattan et elle se décroche de Manhattan et elle part à l'ouest. Et elle part dans les bas-fonds, elle part dans les quartiers et elle part du coup dans le West Side américain, new-yorkais, pardon. Et où va se passer notre histoire. Et ce premier plan qui voit tous les immeubles, qui quittent les immeubles luxueux pour passer dans les immeubles les plus pauvres et les plus...
Exactement.
Pour arriver dans l'endroit où va se passer notre scène, c'est un début de film phénoménal.
C'est ça.
Et c'est un film qui a une couleur assez folle et qui a une mise en scène assez folle. Donc Robert Wise et...
Jerome Robbins. En fait, voilà. C'est deux réalisateurs. Parce que Robert Wise a signé la mise en scène et Robbins a signé les chorégraphies.
Voilà, exactement.
Donc en fait, quand ils ont reçu l'Oscar du meilleur réalisateur, c'était les deux qui sont allés... enfin, je sais pas si les deux sont allés sur scène le chercher, mais en tout cas, c'était pour eux deux. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un musical urbain. C'est dans New York, dans ce quartier de Hell's Kitchen, donc qui est situé dans le West Side de Manhattan.
Ouais.
On est dans New York et en même temps, on n'est pas dans New York parce qu'en fait, on va jamais voir Central Park, on va jamais voir la Statue de la Liberté. On est dans le New York assez pauvre. Donc, c'est les immeubles avec les briques rouges, c'est le linge qui pend dans les cours, c'est les escaliers de secours, c'est le parking. À un moment, il y a une chorégraphie dans un parking. C'est le New York assez pauvre et ça, je trouve ça génial parce que c'est New York sans être New York. Et il y a cette scène d'ouverture qui ouvre le film et la scène, le générique de fin, pardon, de Saul Bass avec les tags sur les murs, sur les panneaux de signalisation. Et ça, c'est vraiment génial
Je vous conseille,
pour clore le film.
De regarder ça sur YouTube quelque part. Effectivement, le générique de fin se dessine et tracé directement sur des mobiliers urbains, sur des murs, sur des affiches, sur des choses comme ça.
Et c'est toujours intéressant, je trouve, de regarder les costumes des personnages dans les musicals, parce que finalement, on n'est pas au théâtre, donc ils ne peuvent pas non plus avoir des costumes qui font costume. Il faut quand même qu'il y ait ce petit
truc de
réalité où ils doivent donner l'impression que c'est pour de vrai. Et en même temps, donc c'est des vêtements de tous les jours, mais il y a vachement d'attention qui est donnée aux couleurs des vêtements. Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit que La La Land, finalement, ça vient pas de nulle part.
Exactement.
Quand on regarde les costumes, les couleurs des costumes des personnages de West Side Story, la chorégraphie, la scène de bal.
Maria.
Avec les deux bandes qui se retrouvent mais qui veulent pas danser ensemble et en fait qui vont être forcées de danser ensemble. Et en fait, il y a la bande des Jets et la bande des Sharks et chacun, ils ont une espèce de code couleur qui fait qu'on peut les reconnaître même quand ils sont plus les uns à côté des autres. Et ça, c'est génial, quoi.
C'est un film qui est visuellement merveilleux, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs phénoménales, il y a une mise en scène assez folle, il y a des effets visuels assez exaltants et sublimes. Et d'un côté, effectivement, il y a ce sous-texte-là, au-delà de la forme, il y a ce sous-texte-là assez sombre et assez concerné, où on va parler effectivement d'immigration, de société, de problèmes de fond, de pauvreté, etc., etc. Donc c'est un film qui a comme ça deux facettes, et c'est pour ça peut-être qu'il parle à autant de gens et qu'il est peut-être le meilleur des deux mondes véritablement, West Side Story.
Oui, parce qu'en fait, peut-être qu'à partir de ce moment-là, de la fin des années 50 et début des années 60, le musical a besoin de se renouveler pour renaître. Et au lieu de... d'avoir lieu dans un univers onirique, rêvé, maintenant on va faire des musicals qui vont refléter une réalité. Donc on a West Side Story, je vais y arriver, qui reflète une réalité politique et sociale sur l'immigration américaine. Et par exemple, Les Parapluies de Cherbourg, c'est une histoire d'amour brisée par la guerre d'Algérie. Donc en fait, c'est peut-être un... nouveau souffle donné à la comédie musicale qui est plus connectée.
Sachant que, effectivement, pour les curieux de West Side Story, un remake est en cours par l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Steven Spielberg, puisqu'effectivement, le prochain film de Steven Spielberg est le remake de West Side Story. Et il devrait sortir en décembre 2020 pour les intéresser.
Je ne savais pas, je suis ravie de l'apprendre.
Je t'apprends ça, Esther. Effectivement, au début, ce devait être une espèce de film sur, une espèce de biopic sur Bernstein. Puis ça a évolué et finalement, ça a l'air d'être un remake de West Side Story en bonne et due forme. À voir ce qui va donner donc en décembre 2020, remake de West Side Story par Steven Spielberg. On parlait de West Side Story, de cette fin de cycle, de cette fin d'ère, de cet American Way of Life qui disparaît et que le cinéma finalement n'en est qu'un miroir et il montre qu'effectivement que ben, cette Amérique-là qu'on nous a vendue pendant des décennies n'existe pas vraiment, n'existe plus ou n'a jamais vraiment existé. Il y a un autre genre qui va évoquer ça assez durement et un autre film de la même année qui va parler de ça. Encore une fois, je ne vais pas vous mettre deux titres, je vais simplement vous mettre un extrait et on en parle juste après. La colère de Marilyn Monroe, oui, ce que vous avez entendu, c'est la colère de Marilyn Monroe, une Marilyn Monroe furax, qui crie sa colère face au monde et aux hommes. C'est un extrait sonore qui vient de The Misfits de John Huston, Les Désaxés en français, un film de 61 avec Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach, un cast effectivement en or avec un réalisateur John Huston évidemment renommé. Alors, Les Désaxés, ça raconte l'histoire d'une jeune divorcée qui rencontre un groupe donc de désaxés, un cow-boy vieillissant, un mécanicien paumé, un cavalier de rodéo usé, et ils vont du coup partir vivre un bout de chemin ensemble et ça va être, ils vont un peu s'entrechoquer. Donc c'est réalisé par John Huston, c'est quelqu'un, donc John Huston, on ne le présente plus, mais quand même, je vais quand même le présenter, c'est quelqu'un qui a réalisé que Le Faucon Maltais, African Queen, Le Trésor de la Sierra Madre, donc plein de classiques américains. Et c'est un film, Les Désaxés, qui est donc adapté de la nouvelle homonyme de Arthur Miller, qui est un auteur qui était donc marié à Marilyn Monroe depuis 1956, et donc au moment du film. Arthur Miller va donc signer le scénario du film, au moment où il est marié à Monroe, et où son couple avec Monroe bat un peu de l'aile véritablement. Et le film, et le tournage du film, et l'histoire du film, et là c'est pour ça qu'on va en parler ensemble, s'en ressent puisque c'est un tournage qui a été relativement chaotique, compliqué. Les Désaxés, est-ce que tu peux nous en parler, Esther, toi, ce qui a peut-être fait des recherches sur ce niveau-là?
J'adore ce film, je l'ai vu au moins 3-4 fois. C'est un film, en fait, hyper intéressant parce que c'est un film vraiment mythique, quoi. C'est le dernier film de Clark Gable qui va vraiment mourir quelques jours après la fin du tournage, le dernier film de Marilyn Monroe, un des derniers films de Montgomery Clift. Donc c'est trois acteurs monstrueux qui sont rassemblés par Arthur Miller et John Huston, qui sont tous en train de lutter contre leurs démons intérieurs, que ce soit la drogue ou l'alcool ou les médicaments ou le jeu, voilà. Ouais. Tous les vices rassemblés.
Et d'ailleurs, au même moment, John Huston, donc réalisateur, pendant le tournage, il buvait, il jouait au casino, parce qu'on se trouve près de Reno... Et donc, effectivement, dans cette partie de l'Amérique où on peut jouer, on peut boire, il y a des casinos, etc. etc. Donc,
Et John Huston, il a perdu 25 000 dollars en une nuit, parce qu'il était accro au jeu.
Donc, pendant qu'il travaillait,
exactement.
Hein, il était censé faire un film.
Et il est arrivé le matin, il n'avait pas dormi de la nuit, et puis il fallait enchaîner avec le tournage.
Exactement.
Et heureusement qu'il avait une super script qui était là pour prendre le relais. Non, et puis voilà, c'est le film qui confirme la séparation de Arthur Miller et Marilyn Monroe, qui divorcent vraiment 2-3 mois après la fin du tournage, ouais. Et qui s'éloignent de plus en plus pendant ce tournage. C'est un tournage chaotique qui a duré 90 jours au lieu de 50. Marilyn Monroe arrivait tout le temps en retard. Elle n'était pas en forme à ce moment-là. Et en plus, elle part en clinique pendant le tournage.
Ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, tu as dit effectivement que c'était donc le dernier film de Marilyn Monroe parce qu'elle tournera certes un autre film après. Donc oui, elle tournera un autre film après qui s'appelle donc Something Got to Give, mais qu'elle n'aura pas le temps de terminer. Donc c'est donc Les Désaxés qui est officiellement son dernier film. Mmh.
C'est
tout comme tu l'as cité, Clark Gable qui mourra une semaine après la fin du tournage. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on y regarde de plus près, le film est traduit Les Désaxés. The Misfits pourrait se traduire par Les Inadaptés, mmh. véritablement. Ouais. Et donc c'est l'histoire de gens inadaptés à un système, à une société, à un monde, à une Amérique, véritablement.
Ouais, c'est assez fou, parce qu'en fait, les personnages ressemblent tellement aux acteurs qui les incarnent. C'est ça qui est dingue, et c'est ça qui fait que ce film est fascinant. Et c'est ça qui fait que ce film continue à être regardé et analysé dans tous les sens, parce que Montgomery Clift a eu un accident de voiture très grave quelques années auparavant, ouais. Qui l'a défiguré. Il y a une scène où il est au téléphone avec sa mère et elle lui demande comment va son visage. Et il lui Exactement. Dit, mon visage, ça va comme neuf. Donc c'est fou, tout ce...
Ah, donc il parle de son accident à lui dans sa vraie vie, dans le film, véritablement.
En fait, c'est aussi un... Il fait du rodéo et il est toujours en train de se blesser. Donc c'est sûrement un accident de rodéo.
Bien sûr.
Arthur Miller, il joue toujours sur les ressemblances, en fait, entre les acteurs et les personnages qu'ils incarnent. Marilyn, elle joue un personnage qui s'appelle Roselyn. Ça ressemble, c'est pas le fruit du hasard. C'est Arthur Miller écrivait ce scénario avec Marilyn Monroe à côté de lui, donc il s'est vachement inspiré de Marilyn pour écrire ce personnage. D'ailleurs, Marilyn a beaucoup de points communs avec son personnage.
Oui.
C'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui a une relation névrotique avec sa mère. Le personnage de Roselyn le dit, que sa mère était absente et qu'elle était souvent toute seule. C'est un personnage aussi qui a beaucoup d'angoisse, qui a un sentiment d'abandon, mm-hmm. qui se sent très seule, qui même quand elle était mariée, en fait, se sentait seule. C'est ce qu'elle essaie d'expliquer à Gay à un moment. Et c'est aussi... une personne qui a un regard totalement émerveillé sur l'enfant, sur les enfants, sur les animaux, qui redevient totalement enfant elle-même quand elle voit.
Et tout ça dans cette animaux. Plastique monroyenne, entre guillemets, c'est qu'effectivement, c'est, elle a le corps qu'elle a, elle a la physique qu'elle a, et du coup, effectivement, en plus de ça, avec tous ces tumultes intérieurs, elle est l'objet de convoitises. Dans le film, c'est souvent traité, hein, parce qu'effectivement, les hommes ou les personnages masculins autour d'elle, ben.
Sont tous amoureux d'elle
ouais. véritablement. Alors et elle aime ce côté candide un peu.
Alors qu'elle est quand même beaucoup moins glamour que dans d'autres films. Elle est quand même sublime, et c'est ça qui est, moi c'est marrant, je me suis dit, mais est-ce que je l'ai déjà vue en jean chemise?
Ouais.
Je sais pas si j'ai déjà vu Marilyn Monroe en jean à part dans ce film là mais bon, même en habillée en cowgirl, elle reste magnifique. Elle reste l'objet de toutes les convoitises, alors que voilà, elle a pas ses longues robes comme on a pu la voir dans beaucoup de films.
Ouais.
Et c'est vrai qu'Arthur Miller lui a écrit ce rôle comme un cadeau, parce qu'effectivement, leur relation se délitait. Ouais. Et il a voulu lui offrir un rôle qui lui ressemblait, et quelque chose de plus intéressant et de plus profond que les rôles de pin-up qu'elle avait l'habitude de pin-up, gentil, mais quand même parfois un peu idiote, quoi. Il a voulu lui offrir autre chose. Et en fait, elle, ça l'a perturbée, parce qu'elle s'est dit... Il semblerait que ce personnage lui ressemblait tellement qu'elle a hésité en fait à l'accepter, et qu'il a dû la convaincre.
Alors que c'est son rôle peut-être le plus intéressant et son ouais. fort, parce que là elle prouve toute sa palette de l'actorat. Elle joue d'ailleurs, c'est drôle parce que l'extrait qu'on a mis au début, donc de la colère du personnage de Marilyn. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, effectivement, son personnage a une colère contre une sorte d'absurdité, parce qu'effectivement ils vont à une chasse aux Mustangs. Ils vont essayer de capturer des Mustangs pour ensuite les vendre pour plein de raisons. Et elle ne comprend pas cette absurdité d'un monde qui essaye de capturer les chevaux dans un monde où tout le monde a des voitures, et pour en faire quelque chose de précis que je ne vais pas vous spoiler. Cette colère de Marilyn Monroe qu'on entend, qui est une scène assez folle, c'est pour ça que ne serait-ce qu'une raison de voir ce film, c'est cette scène assez folle. C'est un peu la colère de peut-être de Norma Jean Baker, donc
tout à fait.
Contre l'absurdité du monde dans lequel elle vit, contre l'absurdité d'Hollywood.
Ouais.
C'est pour ça que ce film-là, Désaxé, parle aussi de la fin d'Hollywood en soi-même. C'est que l'absurdité d'un monde comme Hollywood, et l'absurdité d'une Amérique comme l'a été celle d'Hollywood pendant des décennies, est un peu absurde. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce film-là se passe dans un décor, alors c'est pas un western, mais ça se passe dans un décor de western, véritablement, dans les déserts, où Clark Gable, c'est un cow-boy qui est vieux, etc., etc., etc. C'est pas le champ du cygne du western, mais ça en a tous les atours, véritablement. En tout cas, c'est l'Amérique qui se regarde en face et qui dit « ça ne fonctionne plus ».
Et pourquoi cette absurdité? Au départ, ils sont censés capturer quoi, 15 Mustangs, finalement, il n'y en a que 6.
Ouais.
Voilà, pour en faire quelque chose de totalement atroce, hein, on
même
pas dira
pour,
pas.
Voilà, ouais.
Et en fait, à un moment, ils demandent, mais c'est pour combien on va récolter avec ça? C'est une centaine de dollars. Et elle supporte pas en fait qu'on prive ces animaux de liberté.
Exactement.
Et qu'on les tue pour une somme aussi dérisoire. Et moi, je trouve que cette scène de crise de colère, elle est magnifique. Parce qu'elle est filmée de loin. Il n'y a pas un gros plan sur elle et c'est ça qui est dingue. C'est pourquoi il ne s'est pas rapproché. Il l'a laissé comme un petit point perdu dans ce désert qui essaie de se faire entendre. Marilyn, qui avait cette voix si douce et si frêle qu'on galérait à entendre sur les plateaux de tournage, et ben là, pour la première fois, on va l'entendre hurler de loin. Enfin, c'est vraiment un pétage de boulon totalement original comme on a rarement vu au cinéma. Et effectivement, on se demande si elle n'est pas en train de crier aussi sur tous les hommes qu'elle voit en face d'elle, quoi, sur le plateau, sur John Huston, sur Arthur Miller, c'est tous les hommes de ce tournage, parce qu'elle accuse les hommes d'être des hommes morts, et en fait elle parle sans doute aussi aux hommes qui sont derrière la caméra et sur le plateau.
West Side Story, les désaccès, deux faces d'une même pièce, effectivement c'est deux films dans deux genres. Alors je mets des gros guillemets parce qu'effectivement West Side Story ça va être un musical en tant que tel, Les Misfits, Les Désaccès n'est pas un western, mais en tout cas il est dans un, il a les codes, il prend des personnages archétypaux du western et il en monte des versions usagées, usées. C'est la fin d'un modèle fantasmé qui est cet American Way of Life dont on parlait au début, qui est peut-être en bout de course tout simplement. Et donc là, l'Amérique, l'Hollywood n'a plus d'idées, ou en tout cas les idées qu'elles avaient n'ont plus cours. Et c'est drôle parce qu'au moment où ce cinéma hollywoodien de l'âge d'or va, on va dire, péricliter et s'user, de l'autre côté du monde, en Europe et en Asie, ces genres, le western, le musical, comme on en a parlé avec Jacques Demy, vont trouver une nouvelle jeunesse, vont trouver une nouvelle vie. Par des cinéastes qui vont y apporter du sang neuf, une nouvelle lecture simplement parce qu'ils sont d'un pays différent. Toi Esther, tu voulais juste pour clore ce thème conseiller un bouquin que tu as particulièrement apprécié, notamment sur les désaccès.
Oui, non, mais ça c'est un bouquin je pense que tous les cinéphiles connaissent, et ceux qui ne le connaissent pas, bah, précipitez-vous pour le découvrir. C'est The Misfits, chronique d'un tournage par les photographes de Magnum, avec Arthur Miller et Serge Toubiana. Donc Serge Toubiana a rencontré Arthur Miller, l'a interrogé, et Arthur Miller en fait parle avec une franchise assez hallucinante. Il parle notamment de la présence de Paula Strasberg sur le tournage, la coach de Marilyn Monroe, qui a rendu fou John Huston et Arthur Miller. Et voilà, et les photos de tous les photographes en fait,
d'accord,
de l'agence Magnum qui sont venus sur le tournage, donc Henri Cartier-Bresson notamment, et bien d'autres photographes qui ont pu prendre des photos. Je pense jamais ce serait possible de faire des photos comme ça aujourd'hui sur un tournage. Il y avait une telle proximité avec les acteurs, avec les membres de l'équipe, et c'est sublime, et on apprend énormément de choses sur ce film parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, et malheureusement on n'a pas pu tout aborder.
La musique entraînante que vous avez entendue est celle de Yojimbo, le garde du corps, film d'Akira Kurosawa, également sorti en 61. Et la transition est parfaite, puisqu'on vient de parler de la fin d'une ère, de la fin d'un monde hollywoodien, de la fin d'un cinéma américain. Et quand il se passe ça aux États-Unis, au même moment, au Japon, un cinéaste, un cinéma, un film va revisiter, on va dire, certains archétypes, certains styles du cinéma hollywoodien, pour faire quelque chose d'original à sa sauce véritablement, et purement japonais, et purement passionnant. Yojimbo, le garde du corps, raconte donc, pendant le 19e siècle au Japon, l'aventure d'un samouraï errant qui arrive dans un village écartelé par deux bandes rivales, et les deux gangs vont alors vouloir obtenir les services de ce mystérieux et puissant voyageur. Rapidement, pour faire le tour, Akira Kurosawa, c'est donc le réalisateur japonais sans doute le plus connu au monde. C'est celui, en tout cas, qui a mis, on va dire, en lumière le cinéma japonais dans le monde, puisque au moment donné où il fait Yojimbo, le garde du corps, donc en 61, c'est quelqu'un qui est déjà extrêmement connu, puisqu'il y a eu Rashomon 10 ans avant, et il a fait en 54 les 7 samouraïs. Donc il a déjà eu effectivement un Oscar, il va réaliser Ran, il va réaliser Dersu Uzala, il va réaliser Kagemusha qui aura la Palme d'Or, donc c'est quelqu'un évidemment d'essentiel, d'inévitable quand on parle de cinéma. Et c'est quelqu'un, et c'est un cinéaste donc japonais qui est également très inspiré par l'Occident. C'est ça qui est intéressant, puisque c'est quelqu'un qui va être inspiré par des cinéastes comme Griffith, Chaplin, Jean Renoir ou John Ford, et qui va transposer des œuvres de Dostoïevski, de Shakespeare dans ses films véritablement. Esther, que voulais-tu rajouter sur Yojimbo, qui est donc le 20e film de Akira Kurosawa, avant qu'on parte peut-être sur le débat en lui-même? Toi, tu avais quelque chose à dire en particulier?
Non, mais c'est vrai que c'est un film, finalement, c'est un western à la japonaise, quoi. C'est Kurosawa, comme tu l'as dit, aimait beaucoup les westerns hollywoodiens. Et apparemment, il aurait beaucoup pensé à L'homme des vallées perdues de George Stevens avant de faire Yojimbo. C'est un film de Stevens qui avait eu un très gros succès au Japon. Donc c'est marrant parce qu'on revient sur le western.
Par une porte dérobée, celle d'un cinéaste étranger japonais.
Ouais, et c'est un film de samouraï, mais qui ressemble vraiment beaucoup à un western.
Qui reprend les codes, effectivement, d'un genre purement américain. Donc le film est une sorte de fable, hein, comme je le dis dans le synopsis, le village est une sorte de microcosme qui marche un peu comme une métaphore de la société, hein. Donc évidemment, Akira Kurosawa, au-delà de raconter l'histoire d'un samouraï qui arrive dans une ville et qui va, on va dire, voir qu'elle est pourrie et régler les problèmes d'une certaine manière, il va en même temps dénoncer la corruption politique, l'obsession de l'argent, les luttes de pouvoir. Donc il va parler de la société japonaise de l'époque via ce film qui est, quand on le regarde comme ça, on va dire une sorte de un film d'aventure, d'action et de violence véritablement, mais qui a un sous-texte assez important, puisque c'est le village par exemple est le portrait de tout ce qui ne va pas dans la société japonaise de ce temps-là. Il faut savoir que Kurosawa, quand il fait Yojimbo, il casse un peu le film d'époque. Parce qu'effectivement, quand on fait un film qui se passe au 19e siècle, on avait jusqu'à présent un cinéma relativement structuré, relativement avec des codes, on va dire, nobles, on va dire, avec les gentils d'un côté, les héros d'un côté, les méchants de l'autre, etc., etc. Et là, on va avoir un héros qui s'appelle Sanjuro, qui est joué par l'acteur culte de Akira Kurosawa, qui est donc Toshiro Mifune, qui est amoral, qui est vraiment pas très très cool, Sanjuro, qui est un espèce d'anti-héros qui va juste aller donner ses services aux plus offrants. Donc il va juste arriver dans la ville, il va montrer de quoi il est capable, et il va vendre ses services aux plus offrants, et finalement il est un peu amoral. Et donc c'est par ce biais-là qu'Akira Kurosawa va, voilà, comme ça, peut-être tracer des autres archétypes qu'on va retrouver plus tard, le fameux anti-héros.
Kurosawa veut nous montrer la société japonaise à une époque en fait de grands changements. Le film se situe entre la fin de l'ère Edo, donc l'ère Edo c'est 1603 1868, et le début de l'ère Meiji, donc ça c'est 1868-1912, et c'est un moment où donc c'est les commerçants qui deviennent les nouveaux maîtres. Bah, Yojimbo c'est le commerçant de saké et le commerçant de soie. Et c'est eux deux qui se font la guerre. C'est eux deux qui ont deux gangs qui ne font que s'affronter.
Un peu comme en 2019 finalement. Est-ce que les commerçants ne sont pas les nouveaux? Est-ce que Amazon
un
et
peu
Google
comme les Jacks et les Sharks aussi.
Et voilà,
tu vois,
exact.
Voilà. Et donc c'est la naissance en fait des grands conglomérats industriels que Kurosawa veut montrer dans Yojimbo, et cette société où l'argent est tout puissant. L'argent règne. Le monde est gangréné par la corruption, par l'avidité, par la lâcheté des hommes, en commençant par le menuisier qui fait que construire des cercueils. À chaque fois on entend le bruit du marteau, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle bagarre. Mais c'est vrai qu'il y a un discours très critique envers la société japonaise dans ce film.
Ouais, et c'est intéressant parce que là tu viens d'évoquer différents rôles, différents aspects de l'histoire, notamment la personne qui fait des cercueils. Et si l'histoire d'un étranger qui arrive dans une ville pourrie, corrompue, et qui règle les problèmes de cette ville-là, et qui s'en va, vous dit quelque chose, ce n'est pas anodin. Et si tous ces archétypes de anti-héros, de personnages principaux amoral, violent, et dans une ville qui ne l'est pas moins, vous dit quelque chose, ce n'est pas rien, puisque Yojimbo va revisiter, comme tu l'as dit, et comme on l'a dit, plusieurs aspects du cinéma américain, et notamment du western. et va de la même manière inspirer tout un autre cinéma, va être une référence, puisque Yojimbo va être remaké juste après par un petit cinéaste qui s'appelle Sergio Leone en 64 avec le film Pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood. Et oui, Pour une poignée de dollars de Sergio Leone avec Clint Eastwood était un remake de Yojimbo, le garde du corps de Akira Kurosawa. D'ailleurs, ça posera une petite histoire assez rigolote, puisque Sergio Leone aura vu ce film de Kurosawa, aura bien sûr aimé le film, et l'aura remaké sans aucune autorisation. Les avocats de Kurosawa auront vu ça et l'auront forcé à dédommager Kurosawa. C'est-à-dire à lui payer une amende et en plus de 15% des recettes de Pour une poignée de dollars. Quand on sait que Pour une poignée de dollars a été un succès assez, assez dingue, on se rend compte que Kurosawa a quand même touché un peu d'argent dans ce remake non autorisé de Sergio Leone, donc c'est assez rigolo. Sachant que effectivement, cette histoire d'un étranger qui arrive dans une ville et qui règle tous les problèmes, elle a été reprise par Sergio Leone pour une poignée de dollars, mais c'est aussi la trame d'autres films comme Django de Corbucci, comme le dernier recours de Walter Hill avec Bruce Willis. Donc c'est une structure, on va dire, d'histoire qui a été reprise mille fois et que Kurosawa a installé avec ce film-là, assez emblématique.
En fait, il s'avère que Sergio Leone a été extrêmement touché par Yojimbo, par la beauté de Yojimbo, parce que c'est quand même des plans qui sont incroyables, quoi. L'utilisation du scope par Kurosawa, elle est assez dingue. Il y a une profondeur de champ, il se passe tout le temps des choses au second plan, il n'y a jamais une zone morte dans les plans de Kurosawa. Et Sergio Leone en fait va reprendre plein d'éléments de Yojimbo, quoi. J'ai lu que Tonino Delicoli, le directeur de la photo des films de Sergio Leone et notamment de Pour une poignée de dollars, qui avait vu en fait Yojimbo avec Sergio Leone au cinéma à Rome. Sergio Leone l'a emmené voir Yojimbo peut-être pour la troisième ou quatrième fois. Et en gros, Tonino Delicoli dit: toutes les tentatives pour contacter Tokyo et les bureaux romains de la société nippone sont restées sans réponse. Alors, nous avons décidé de faire le film quand même.
Oh là
ils ont
là,
quand même essayé de les contacter. Voilà.
L'excuse
non, mais en fait,
naze. Ouais, bah, très bien.
Ce qui est dingue, c'est de voir à quel point le cinéma japonais va être une source d'inspiration pour un cinéaste qui va devenir immense, quoi, pour Sergio Leone, et qui, en fait, la dilatation du temps, il ne l'a pas inventée. Il la reprend de Kurosawa, il la reprend d'Ozu. Il dit qu'il adore.
C'est quelque chose de très oriental, cette dilatation du temps.
Il dit que c'est ça ce qu'il adore chez Kurosawa, c'est les temps morts. Que les temps morts sont plus intéressants que les temps vivants. Il reprend certains plans. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Et puis même dans les éléments de l'histoire, le menuisier qui construit ses cercueils, justement Sanjuro qui va se cacher dans le cercueil pour s'échapper dans le village.
Dans un Lucky Luke,
quoi, l'homme sans nom qui arrive, qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de parents, qui n'a pas d'histoire. On ne sait pas d'où il vient. Et il erre et il va s'immiscer dans les histoires du village et utiliser un peu les gens pour arriver à ses fins. C'est une figure d'anti-héros qui va être reprise maintes et maintes fois. Et ça, c'est là que se situe évidemment le génie de Kurosawa.
Mais c'est vrai que quand on voit Yojimbo, on se rend compte que c'est un film qui est extrêmement organique, dans le sens où la nature est tout le temps présente. C'est-à-dire que la pluie, le vent, la poussière, les plantes, toute la nature est omniprésente dans ce film-là, et elle se sent, elle se ressent à chaque scène, et en général elle est un miroir du désespoir ou des émotions des personnages principaux. Et elle est assez phénoménale à gérer, parce que du coup, quand on voit comment la poussière et le vent et la pluie est gérée dans Yojimbo, on comprend tout à fait comment elle va être mise en exergue dans les films de Sergio Leone plus tard, ou en général dans le western spaghetti dans les années 60-70. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on parle de cette omniprésence de la nature pour un film qui est quasiment entièrement tourné en studio. C'est-à-dire que quand on le regarde, on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce qu'on a l'impression qu'on est dehors, on a l'impression que la nature est tellement là tout le temps, qu'on a l'impression qu'on est effectivement dans les champs, dans la nature, etc. Mais c'est entièrement en studio. Et c'est peut-être l'un des coups de maître de ce film-là, c'est de nous donner cette prégnance de la nature en permanence, alors qu'on est tranquillement entre les quatre murs d'un studio au chaud, véritablement. Pour l'anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que Yojimbo sort, la même année, effectivement, sort le premier film de Sergio Leone, qui s'appelle Le Colosse de Rhodes. C'est un peplum pas extrêmement intéressant, mais en tout cas, c'est drôle que, d'un côté, on ait effectivement la naissance d'un cinéaste qui sort son premier film, et en même temps, on ait le film qui va l'inspirer pour son second film, qui va le lancer définitivement sa carrière. Akira Kurosawa avec ce film et avec le reste de sa carrière va inspirer, donc en plus Sergio Leone, il va inspirer pas mal de cinéastes du nouvel Hollywood, Coppola, Spielberg et George Lucas, notamment avec Star Wars, hein, parce que Star Wars s'inspire beaucoup de La Forteresse Noire, de plein d'autres films d'Akira Kurosawa. D'une certaine manière, la boucle est bouclée. On en a parlé d'Akira Kurosawa comme quelqu'un qui a été très inspiré par l'Occident, par les films de John Ford, par Jean Renoir, par Dostoïevski, Shakespeare, et lui-même, effectivement, comme d'un sorte de processus sain, un cercle vertueux de création, il va inspirer toute une nouvelle génération américaine et européenne, et c'est ça qu'on aime. Pour l'anecdote, Le Garde du Corps, ce film-là, connaîtra une suite qui sortira l'année suivante, qui s'appellera Sanjuro, qui est donc une suite directe de ce film-là. Donc si vous avez aimé, ou en tout cas si vous découvrez Le Garde du Corps de Kurosawa et que vous aimez bien, sachez que vous pouvez suivre la suite de son aventure dans un film qui s'appelle donc Sanjuro directement. L'essentiel est dit, il est temps de passer au troisième et dernier thème de cette émission.
Votre film, l'année dernière à Marienbad, est l'un des films les plus curieux que nous ait montré le cinéma. Pour beaucoup, il sera une énigme. Alors, j'aimerais bien, pour éviter un maximum d'erreurs, connaître votre explication de votre film.
Ah, mais moi, je n'ai pas à donner spécialement mon explication. Je ne pense pas, d'ailleurs, que le film soit une véritable énigme. Je veux dire que chaque spectateur pourra trouver sa solution. Et que cette solution sera vraisemblablement toujours une bonne solution. Mais ce qui sera caractéristique, c'est que ce ne sera pas la même solution que celle de son voisin. C'est-à-dire que ma solution n'a pas plus d'intérêt que celle de n'importe quel des spectateurs.
Elle m'amuse, cette voix. Cette voix, c'est celle d'Alain René, réalisateur de l'année dernière à Marienbad, film également sorti en 61 et qui va être au centre de notre troisième thème. Alors, l'année dernière à Marienbad est donc un film réalisé par Alain René, écrit par Alain Robbe-Grillet, qui raconte l'histoire d'un homme qui va tenter de convaincre une femme qu'ils ont eu une liaison l'année dernière et qui lui a donné un an de réflexion avant de le suivre. Cette femme n'y croit rien et elle va effectivement, au fur et à mesure du film, douter, se laisser convaincre. Un film qui va inspirer les plus grands, Stanley Kubrick, on peut parler de Shining, Christopher Nolan, David Lynch, un film énigmatique, un film qui m'a laissé personnellement un petit peu dubitatif, mais toi, Kester, tu as adoré.
Non, c'est un film effectivement extrêmement atypique. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment de psychologie des personnages. C'est plus un film qu'on va voir pour l'articulation. Enfin, moi, selon moi, c'est ça l'intérêt de l'image et de la parole. L'image, elle est magnifique parce que ça se passe dans un hôtel, un palais, en fait un château vraisemblablement allemand, bavarois, où on va, qui est comme un labyrinthe, qui est présenté comme un labyrinthe, où on va toujours se perdre dans ces couloirs, dans ces grandes pièces avec les miroirs, les colonnes, les escaliers.
Il y a des plans de couloirs, il y a des plans de miroirs.
Voilà, il y a ce parc qui est absolument magnifique avec ses statues. On voit beaucoup les statues du parc parce que bon, elles ont une signification dans le film. Et il y a cette voix off. Toute la scène d'ouverture du film, c'est la découverte de ce palais avec cette voix off qui répète tout le temps la même chose, en fait. C'est une répétition entêtante des mêmes mots.
Avec
une musique d'orgue. Ouais. Tout ça, ça fait que c'est un film, en fait, très mystérieux. Où il faut vraiment se concentrer pour essayer de comprendre quelque chose. Au départ, ça nous paraît totalement incompréhensible.
Totalement opaque.
Voilà, totalement opaque. Et en fait, c'est assez fascinant parce que c'est extrêmement beau. Et petit à petit, en fait, c'est un peu long, mais on va comprendre voilà, qu'il a eu une aventure avec Delphine Seyrig l'année dernière et qu'elle, en fait, nie absolument, qu'elle ne reconnaît pas, qu'elle a oublié. Et elle l'accuse tout le temps d'être fou, ouais. Jusqu'à peut-être être convaincu.
Alors pour donner à voir un peu à ceux qui nous écoutent, c'est vrai que visuellement on parle de couloir, on parle de corridor, on parle de miroir. Donc on est dans un château extrêmement luxueux avec des dorures, des moulures et dans lesquelles il y a une soirée, fête, ou en tout cas des gens très bien habillés, qui sont une soirée assez luxueuse. Et donc on a ces figures assez propres sur elles, assez monumentales d'une certaine manière, dans cet environnement très luxueux.
Et c'est une atmosphère en fait totalement pesante, voilà. Totalement lourde, parce que c'est censé être une fête. Tous les gens sont extrêmement bien habillés et ils sont là avec en train de boire ou en train de danser ou en train de jouer aux cartes.
Je pense que c'est très stoïque.
Et
très...
en fait, ils sont tous figés.
Très figés, ouais.
Il semblerait que ce soit des fantômes, soit des statues. On comprend petit à petit que ce ne sont pas juste des gens normaux, quoi. En fait, ils sont très étranges.
Quand on raconte ça comme ça, les images vous viennent en tête, ça nous étonne beaucoup moins quand on sait qu'effectivement ce film-là a inspiré directement Stanley Kubrick pour Shining, a inspiré des cinéastes comme Ingmar Bergman, Federico Fellini, qui est donc un des cinéastes qui joue beaucoup sur la dimension du rêve et de la réalité, ces différents mondes qui s'entrechoquent, des cinéastes comme David Lynch ou Christopher Nolan, hein, puisque c'est pour son film Inception, c'est assez amusant. Quand un journaliste a fait remarquer à Christopher Nolan que Inception empruntait beaucoup à cette dimension du rêve, à cette dimension de la redite, du souvenir, de qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est réalité, il lui a dit, mais est-ce que vous vous êtes inspiré de l'année dernière à Marion Bad d'Alain René? Christopher Nolan n'avait pas vu le film, et du coup, ça lui a fait voir le film. Et rétroactivement, il s'est dit, c'est fou, je n'avais pas vu le film quand j'ai fait Inception, mais j'ai dû voir des films de gens qui s'étaient inspirés de Marion Bad, et du coup, j'ai dû m'en inspirer également. Et du coup, c'est un film qui, comme ça, a inspiré, a référencé, est devenu une référence. Et en même temps, c'est un film qui, à son époque, et encore maintenant, la preuve, c'est que toi, tu l'adores, et moi, je suis relativement opaque à ce film-là, même si j'aime bien Alain René. C'est un film qui divise, puisque c'est un film que moi, je jugerais assez hermétique. Mais d'un autre côté, comme tu le dis toi très bien, c'est un film qui est extrêmement mystérieux et qui donne à manger, on va dire, au spectateur, et qui donne à réfléchir et qui peut fasciner par son mystère et par ce jeu de qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est souvenir, qu'est-ce qui est réalité.
Est-ce que ce qu'on voit est vrai ou est-ce que c'est totalement le fantasme de X ?
C'est pas une métaphore du cinéma finalement, Esther ?
Et ben, il y a une des interprétations du film, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une des interprétations du film qui dit que X en fait est conscient de sa condition de personnage
d'homme de cinéma.
Voilà, en fait, il a compris qu'il était dans un film et que ce film, l'année dernière à Marion Bad, c'est sa prison et qu'il fait tout pour sortir du film. Et comment il fait pour sortir du film ? Et ben, il essaie de convaincre A. De sortir de la fiction avec lui. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il dit des choses de metteur en scène. Il y a un moment où il dit cette fin-là n'est pas bonne, il se passe quelque chose, et lui, il revient en arrière, il dit cette fin-là n'est pas bonne, et ce qui s'est passé ne se passe plus. Donc en fait, c'est une théorie. Ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est Alain Robbe-Grillet qui a écrit le scénario de ce film, c'est un scénario original, parce qu'Alain René travaille beaucoup avec des écrivains et à chaque fois c'est des scénarios originaux qui sont écrits exprès pour le film qu'il va réaliser. Donc évidemment Marguerite Duras a écrit le scénario d'Hiroshima Mon Amour, Jean Kerol a écrit le texte de Nuit et Brouillard qui sera lu par Michel Bouquet, et l'année dernière à Marion Bad c'est un scénario écrit par Alain Robbe-Grillet, donc qui est le chef de file du nouveau roman. C'est le mouvement littéraire à l'époque vraiment controversé dans les années 50.
Comment tu décrirais le cinéma d'Alain René ?
Je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter, qui aime expérimenter des nouvelles choses, qui aime faire des choses totalement différentes, qui se voit un peu comme un... On a beaucoup dit que c'était un cinéaste cérébral, intellectuel, et finalement, c'est un cinéaste qui voit le cinéma comme un matériau avec lequel on peut faire des expériences, avec
comme
sa petite
Lynch
boîte à outils.
Comme Lynch ou Soderbergh, finalement. Soderbergh, Lynch... C'est des cinéastes qui actuellement font un peu ce même travail-là.
Ouais, mais moi je pense que l'année dernière à Marion Bad était encore plus intéressant quand on a une interprétation du film qui nous explique véritablement ce qu'on vient de voir. Comme après Mulholland Drive, on est obligé de lire une explication pour comprendre ce qu'on vient de voir. Et ça, c'est des films qui marchent, des films à mystère où il faut trouver la clé de compréhension du film, et c'est sûr qu'on ne peut pas la trouver tout seul.
Ça, c'est intéressant parce que c'est une question que je pose même aux auditeurs de cette émission. On a tous, en tant que cinéphiles, des films qui nous ont intrigués, qu'on n'a peut-être pas aimé de prime abord, parce qu'on les trouvait trop opaques, on n'a rien compris, oh là là, je ne comprends pas ce qui se passe, je trouve ça bizarre, un film bizarre, etc. Donc on quittait ces films-là, et puis ils nous restaient dans la tête, et ils nous restaient une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis finalement, à force d'y réfléchir, on y revenait, et on les appréciait. Et donc on était un peu attirés par ce mystère, par cette énigme, par cette opacité, et il y a des fois où c'est des films comme ça, par leur mystère, nous intriguent, et l'année dernière à Marion Bad, mine de rien, depuis que je l'ai vu pour préparer cette émission-là, Bah là, j'en parle avec toi, donc évidemment, ça crée un peu de l'émulsion. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un film qui, comme ça, j'y revienne, on va dire, dans quelques temps, puisque ça peut être un film, comme tu le dis, qui crée une sorte de fascination.
Ouais,
de,
c'est vraiment ça,
d'intrigue.
En fait.
On n'a pas tout compris des premiers coups, du coup, on a besoin d'y revenir.
Ouais, il peut être assez ennuyeux, en fait, à certains moments, parce qu'il ne se passe rien et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, c'est incompréhensible, quoi.
Ça peut être un peu énervant, des fois, de dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne bougent pas?
Mais en fait, je trouve
pas,
que c'est, ça hante, c'est un film qui hante, quoi, qu'il y a des images qui hantent, qu'il y a un personnage principal qui est hallucinant. Mm-hmm. C'est Delphine Seyrig, un de ses premiers rôles au cinéma, enfin... son premier vrai rôle au cinéma, et c'est la révélation de cette actrice dans le cinéma français grâce à Alain René qui allait la chercher au théâtre alors qu'elle jouait aux États-Unis. Et non, elle a un visage fascinant, quoi. Il y a toute la première partie du film où c'est une espèce de poupée figée sans expression qui a tout le temps la main comme ça posée sur son épaule comme une statue, et finalement quand elle va s'animer il y a deux trois moments comme ça assez perturbants où elle s'anime. Elle commence à regarder autour d'elle, elle fait tomber un verre, elle casse un verre, elle crie un moment d'étonnement et on ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, et on a absolument envie de comprendre ce qui se passe. Donc moi, c'est ça ce que j'adore dans ce film, c'est on veut aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre. Et à la fin, on a un bout de compréhension.
Ah, ce que disait Alain René au début, c'est que finalement, il n'y a pas de bonne explication, bonne compréhension de ce film. Tout le monde un peu à la sienne, et la mienne n'est pas la meilleure, et celle du réalisateur n'est pas forcément la meilleure. Chaque spectateur va avoir la sienne.
Il y a eu une énorme polémique quand il est sorti, qu'au départ, d'ailleurs, le distributeur ne voulait pas sortir le film après l'avoir vu, tellement il le trouvait étrange, il était totalement décontenancé. Alain Robbe-Grillet et Alain René ont organisé des petites projections clandestines du film avec des personnalités. Donc il y a quand même André Breton qui a vu le film, qui l'a détesté. Ouais. Sartre, Cocteau, Antonioni, Giacometti. Je trouve ça assez génial de leur part d'avoir organisé ça pour avoir leur avis. Globalement, à part André Breton, je crois qu'ils aimaient beaucoup le film, mais qu'ils se disaient ça va pas le faire en salle. Non, le public il va clairement pas suivre. Et finalement, le film gagne le Lion d'Or à Venise et le distributeur décide de sortir le film. Et ça va devenir un objet de mode. Enfin, il faut savoir que donc René avait rencontré un très grand succès avec Hiroshima Mon Amour, qui avait fait plus de 2 millions de spectateurs. Et là, en fait, les gens se ruent dans les salles pour aller voir. Donc l'année dernière à Marienbad, ça devient un film totalement incontournable qu'il faut avoir vu parce que c'est l'objet de discussion dans les dîners. En fait, c'est
un peu comme 2001 aussi de l'espace a pu intriguer les gens parce que on comprend rien.
Et même Le Monde avait fait une page sur pour ou contre l'année dernière à Marienbad. Les gens se sont déchirés sur ce film. Donc les pros Marienbad disaient qu'il y avait une modernité qui était passionnante, qui était inédite. Et les anti-Marienbad disent que c'est pompeux, c'est incompréhensible, c'est totalement prétentieux. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que même aujourd'hui, on se rend compte que les critiques ne sont pas d'accord, parce que je vais vous lire deux extraits de deux dictionnaires du cinéma. Donc il y en a un, c'est un Larousse, et l'autre, c'est édition Robert Laffont. Donc Larousse dit de ce film « Le passé se mêle au présent, le fantasme à la réalité, le mensonge à la vérité, au fil d'une superbe liturgie des images et des mots. » Plutôt positif. En tout cas, il utilise le mot « superbe », donc ça a dû lui plaire. Un autre journaliste qui, pour lui, a trouvé les meilleurs mots pour résumer Marienbad. Je cite, il y a un phénomène, Marienbad, qui beaucoup plus que l'accident pelliculaire qu'il a provoqué, mérite réflexion. Que dans ce film ne se manifeste aucune intelligence de l'acteur et du décor, aucune compréhension des possibilités du cinéma, et que la plupart des critiques s'y soient intéressées. Que son esthétique soit, pour des raisons précises, entièrement démodée, et qu'on en ait loué l'audace. Que pour s'ennuyer 1h30 d'un ennui noir, dense, irrémédiable, des foules puissent piétiner devant la porte et payer. C'est par des considérations de cet ordre que l'intérêt de l'année dernière à Marienbad apparaît considérable.
Ouais, ça, effectivement, cette critique, elle est assez saisissante.
Clairement, il n'a pas du tout aimé le film, et ça se lit encore aujourd'hui dans un simple dictionnaire du cinéma. Clairement, le film ne fait toujours pas l'unanimité aujourd'hui.
Eh bien, nous ne nous écharperons pas, nous. Effectivement, nous ne sommes peut-être pas aussi d'accord sur le film l'un et l'autre. Mais en tout cas, on a chacun apprécié le film, ou en tout cas vu le film d'une certaine manière. On peut l'aimer, on peut le détester, mais en tout cas, il intrigue. Et je pense que vous qui nous écoutez, vous avez forcément effectivement des films qui vous ont intrigué, sur lesquels vous êtes revenu à un moment donné. Et c'est peut-être ça qu'on aime aussi au cinéma et dans les films, c'est peut-être cette part de mystère qui parfois fascine jusqu'à y revenir et jusqu'à nous accrocher irrémédiablement. C'était donc l'année dernière à Marion Bad d'Alain René. Voilà qui conclut notre troisième et dernier thème. On arrive doucement à la fin de cette émission. On est parti pour un petit et rapide tour du monde. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. On a parlé de West Side Story, des Désaxés de l'année dernière à Marion Bad, de Yojimbo d'Akira Kurosawa. Mais il n'y avait pas que ce film-là. Il y avait aussi Les 101 Dalmatiens de Disney. Il y avait L'Arnaqueur. Il y avait Les Canons de Navarone en 61. Le Roi des Rois, La Vengeance aux deux visages de Marlon Brando, À travers le miroir d'Ingmar Bergman, Lola de Jacques Demy, bref, énormément de films divers et variés dont on n'a évidemment pas eu le temps de parler mais qu'on vous invite à aller voir par vous-même. Pour ce petit tour du monde, donc cette petite aller-retour de la planète pour voir quels autres films avaient de l'importance, j'ai décidé de choisir personnellement un film que j'ai découvert sur le tard mais qui m'a touché en plein cœur. Un film dont vous entendez sûrement la musique parce que je l'ai mise au montage. Donc, je veux bien sûr parler de Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's de Black Edwards avec Audrey Hepburn. C'est un film, si vous n'avez en tout cas pas vu le film, vous avez sûrement vu des images d'Audrey Hepburn dans sa robe noire sublime ou avec son chat roux ou devant justement les vitrines de Tiffany's en train de déjeuner à l'aube. Pourquoi j'aime ce film? Tout ça parce que moi, je l'ai découvert quand on m'a dit qu'il fallait voir ce film. Je disais, bah non, c'est Audrey Hepburn, je vois partout. Elle est sur des coussins, elle est dans des posters de chambre, elle est dans des machins. Je n'ai pas vu le film, et déjà, effectivement, le film m'insupporte. Mais je me suis dit, allez, je vais quand même le regarder histoire de ne pas mourir idiot. Et en fait, j'ai trouvé un film qui est complètement à l'opposé de l'image, qui en tout cas il a aujourd'hui, qui a une image de pub, qui est une image mercantile un petit peu. C'est un film complètement de crise existentielle. Moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que dans les années 60, on en a parlé au début de l'émission, c'est un cinéma où en tout cas on se pose la question de où va l'Amérique, où va en tout cas un certain modèle américain. C'est une grosse crise existentielle et le cinéma va parler de ça, et ce film-là, Diamant sur canapé, en parle puisque ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va vivre un peu de manière...
De manière libre.
Elle vit un peu de manière libre avec son
chat. Elle fait ce qu'elle veut, quoi.
Voilà. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit seule avec son chat dans son appartement, de manière libre, de manière détachée. Mais bien sûr, cette vie-là, cette existence-là, cache un lourd secret, cache un trauma. Et donc, c'est tout ce cinéma existentiel que j'aime beaucoup et que moi, j'ai découvert donc, avec Diamant sur canapé, mais que j'ai découvert ensuite avec Le Lauréat, qui est un autre film encore sur quelle est ma place dans ce monde, dans quel modèle de société je vais rentrer, à quoi j'appartiens véritablement, où vais-je et dans quelle étagère, entre guillemets, si vous me permettez cette blague. Pourquoi je le cite là, c'est que je trouve que c'est un film extrêmement moderne et qui, pour 2019, a tout à fait sa place, parce que les considérations que vous pouvez de Audrey Hepburn dans ce film-là, c'est celle de Emma Stone dans La La Land, sortie il y a quelques années, et c'est celle qu'on peut avoir également en 2019. Donc un film évidemment culte, c'est un film à l'histoire poignante qui a ce petit goût doux amer que moi j'aime bien, que je vous conseille forcément, et qui forcément a l'une des actrices les plus belles du monde et l'une des chansons les plus belles du monde, parce que celle que vous avez entendue, c'était Moon River, qui est forcément l'une des chansons les plus belles du monde. Donc Diamant sur canapé 61 de Blake Edwards avec Audrey Hepburn, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Toi, pour cette année 61, Esther, tu avais également un film que tu aurais voulu comme ça conseiller en deux minutes à nos auditeurs.
Oui, c'est Viridiana de Luis Buñuel, donc Palme d'Or de 1961 avec une aussi longue absence de Henri Colpi, donc semi-Palme d'Or en fait. C'est un film que Buñuel a tourné en Espagne après presque plus de 30 ans d'exil. La censure espagnole ne l'a pas interdit parce que en fait, ils n'ont même pas voulu regarder le film. C'est un film un peu atroce sous certains aspects. Viridiana, c'est une jeune femme qui s'apprête à devenir bonne sœur, qui est en formation au couvent.
Ouais.
Et au moment où, en fait, elle va rentrer dans le couvent, et en fait, c'est un couvent où, après, elle ne pourra plus jamais voir des gens de sa famille, elle ne pourra plus jamais en sortir, et je crois même plus parler. Voilà. En fait, c'est la directrice du couvent lui conseille vraiment d'aller rendre visite à son oncle, donc c'est la dernière personne de sa famille qui lui reste. Elle la force un peu à y aller, Viridiana n'a pas envie d'y aller, et en fait, c'est Viridiana, de toute façon, est tout le temps forcée dans ce film à faire des choses qu'elle n'a jamais envie de faire. En fait, Viridiana n'est jamais libre de ses faits et gestes, et c'est donc à cause de l'ordre de la directrice du couvent que tout va s'enchaîner et tout va très très mal se passer pour elle. Elle retrouve son oncle qui va tomber amoureux d'elle, qui va vouloir absolument l'épouser. Elle va fonder une espèce d'hospice pour les pauvres et les malades. Et ça aussi, ça va mal se passer. En fait, c'est l'incarnation de la pureté absolue qui n'arrive pas à faire face en fait à toutes les horreurs du monde, à tous les désirs, à toute la bassesse humaine, cette pureté absolue qui finalement ne peut pas exister dans ce monde. Buñuel ne juge pas, hein, il défend aucune thèse, il était assez mal vu par l'Église catholique, donc c'est pas du tout une défense de ce personnage, mais il n'y a pas de thèse ni rien, mais il veut juste montrer ce que c'est la pureté absolue dans cette société-là. Et en fait, c'est un film qui montre des images qui sont extrêmement puissantes, qui restent en tête. Quand on voit Viridiana habillée en robe de mariée, c'est vraiment des images d'une beauté et en même temps qui créent un vrai malaise. Le dîner des pauvres dans le palais, qui c'est une reproduction de la scène de Léonard de Vinci. C'est des images qui sont embarrassantes, qui sont terribles, en même temps qu'elles sont très belles. Et donc, c'est un film qui hante. Et que j'ai, malgré ça, adoré.
Merci pour cette recommandation, Esther. Viridiana de Luis Buñuel, 61 également. Donc 61, une année extrêmement riche, comme on l'a vu. Voilà qui met un terme à cet épisode, donc consacré à cette année 1961, extrêmement riche en films, en thèmes, qui marquait pas mal de fins de choses et pas mal de naissances de plein d'autres choses. Donc une année de transition, comme on les aime dans le cinéma. On arrive à la fin de cette émission. Merci Esther d'avoir accepté mon invitation, merci d'avoir participé.
Merci à toi Thibaut.
Comme d'habitude, à chaque fin d'épisode, on va tirer l'année dont on parlera à l'épisode suivant. Et donc je te donne la lourde tâche de choisir cette année-là. Je te laisse appuyer sur le bouton de décision. De quelle année allons-nous parler à l'épisode prochain, Esther ?
Nous allons parler de 2003.
2003 pour l'épisode d'Année-Lumière numéro 4, une année qui... En 2003, qu'est-ce qu'il y a là ? Moi, le 2003 directement, je pense au Retour du Roi, qui est le troisième film de Seigneur des Anneaux. 2003, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dogville peut-être. Bref, une année qui s'annonce riche en films, comme à chaque fois, véritablement. Et qui annonce un épisode numéro 4 d'Année-Lumière plutôt sympathique et que j'ai hâte de pouvoir vous proposer le mois prochain. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Esther encore une fois. Eh bien écoute, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous remercier de nous avoir écoutés. Salut, salut.
Salut.